Bonsoir Aude Lavigne, on vous retrouve demain pour un nouveau carnet de la création. Bonsoir à toutes et à tous. Are you racing or watching? Sometimes I wonder about you. Are you racing or watching?
La dispute. Ce soir, les arts plastiques.
Ce soir, Corinne Rondeau et Harry Bellet se font face à notre affiche Magritte, la trahison des images, au centre Pompidou jusqu'au 23 janvier. Et le printemps de septembre, le festival d'art plastique qui a pour thème cette année « Dans la pluralité des mondes ». C'est à Toulouse que ça se passe jusqu'au 23 octobre. Nous évoquerons aussi au moment de vos recommandations Baudelaire, Matisse et Chagall, beau tiercé. Vers 21h20, Lucille Comeau nous emmènera loin, très loin, dans son petit salon. Et bien sûr, encore des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir, des places de cinéma pour le film dont nous vous avons dit tout le bien que nous en pensions hier, Fuoco Amar, et par de la Lampedusa de Gianfranco Rosi qui est sorti aujourd'hui dans les salles. Et nous ouvrons cette émission avec la nouvelle grande exposition du Centre Pompidou, Magritte, la trahison des images, dont le commissaire est Didier Ottinger. Une centaine de tableaux, dessins, documents d'archives, une exposition qui entend proposer, je cite, une lecture inédite de l'œuvre de Magritte à la lumière, semble-t-il, ça c'est moi qui le rajoute, de l'intérêt du peintre pour la philosophie, c'est en tout cas donc ce qui nous est dit dans le communiqué de presse, que disait son commissaire Didier Ottinger lors des visites de l'exposition. Je voudrais savoir ce que vous avez vu et ce que vous avez compris à la lumière de cet accrochage. Je commence par Harry Bellet, spécialiste mondialement reconnu de Magritte.
C'est pas vrai. D'abord, je voudrais saluer, parce que puisqu'on me crédite d'être un peu connaisseur de Magritte, ce qui est totalement faux, je voudrais quand même saluer l'enseignement de José Vauvel, qui, à Paris 1, était une de mes professeurs et qui nous expliquait avoir fait sa thèse sur le surréalisme en Belgique parce que, disait-elle, elle ne comprenait rien à la peinture. Alors bon, j'aimerais bien n'y rien comprendre aussi bien qu'elle, mais bon, c'était son argument. Mais qu'avec les surréalistes en général, les Belges en particulier et Magritte en plus, au moins il y avait des textes. dans le cas de Magritte, des textes, il y en a beaucoup. Ces écrits complets qui avaient été compilés et étudiés par André Blavier en 2009, publiés chez Flammarion à l'époque, viennent d'être réédités. 762 pages imprimées serrées, particulièrement gratinées, des choses qu'on ne peut pas dire à la radio, en tout cas de service public. Enfin, j'ai quelques extraits, si vraiment...
Ben oui, on va insister,
si
je pense.
Si vraiment vous y tenez, on fera des bips au moment cruciaux.
Voilà. Donc, non, mais il y a quoi dans cette correspondance, sérieusement, puisque vous commencez par là?
Ah, bah, il y a tout.
Il y a tout
ce qu'il a écrit.
Tout.
Y compris sous pseudonyme, lorsqu'il écrivait pour des revues communistes belges, des revues communistes beaucoup. Mais pas seulement. Et ce qui est très curieux, c'est qu'il écrit à la fédération. On trouve à la fois les tracts. Alors là, les tracts, malheureusement, je ne peux pas les dire. Ou avec beaucoup de bip. J'en ai un pour vous, si vous dites, mais vraiment. Mais aussi des critiques d'art. Il fait une critique notamment d'une expo de Georges Braque, dans laquelle il parle moins de Braque que de sa propre philosophie de la peinture.
On a eu un bip.
On a eu un bip. Déjà, Braque. Oh, c'est pas cochon. mais d'après Magritte, c'est presque. Braque, voilà, c'est ça. C'est quelqu'un qui.
Les bips, je dirais. Hein, il fera signe.
D'après Magritte, il est un peu troublant. Braque, c'est quelqu'un qui déjà fait de la peinture autre chose, c'est-à-dire déjà une philosophie. On est dans cette idée que la peinture, c'est du texte, ou le texte, c'est de la peinture. C'est la même chose. On peut écrire ciel ou peindre ciel. Et alors là, on est très très tôt, hein, dans les années 30, et ce qui est très très amusant, c'est que ça va traverser l'art du XXe siècle. Mmh. C'est-à-dire que on n'est pas. Je vais là rendre hommage à mon confrère et ami Philippe Dagen. C'est vrai qu'on n'est pas très loin de Joseph Kossuth, mais 30 ans avant. Une chaise, c'est pas une chaise si on met pas une chaise. En vrai.
On n'a pas encore parlé de l'expo, hein, vous avez remarqué. Hein. Mais bon, c'est parce que l'introduction se faisait sur ce gros volume que... C'est Flammarion, hein, qui le réédite.
C'est Flammarion.
Flammarion lui-même. Corinne Rondeau, La trahison des images, c'est le titre de cette exposition. Alors découpé
qui est aussi
d'une
le
façon...
titre d'un tableau, enfin, d'une oui, série de tableaux.
Une série de tableaux. Alors découpé, la scénographie est un peu plus simple. Hein. 5 salles, un long couloir. Personnellement, je n'ai pas compris du tout, hein, le propos de l'exposition.
Bien, cher,
j'ai vu une réunion de tableaux dont j'étais heureux de voir en vrai, parce qu'il y en a beaucoup que, c'est vrai, les images de Magritte, on en est abreuvé, ça fait vraiment partie de notre patrimoine culturel, on va dire, qu'on l'ait choisi ou pas, parce que Magritte est partout, sur tous les supports, des mugs aux posters. Alors, c'est bien de les voir en vrai. Par contre, je n'ai rien compris. Donc, vous allez m'expliquer, Corinne.
Je ne suis pas sûre de pouvoir vous expliquer. Bon, alors moi, ce que je trouve formidable pour faire faire une exposition sur Magritte, je trouve ça assez formidable parce que c'est, en général, on dit bon, Magritte, c'est naze, c'est nul, ou alors c'est pas un peintre, ou c'est voilà, on en voit trop, ou on sait pas, bon, bref.
C'est des lieux communs. Il y a beaucoup de gens qui adorent aussi quand même. Hein.
Oui, bien sûr, mais les lieux communs sont assez fréquents autour de Magritte. Moi, ce qui m'intéresse, et là où je trouve ça assez excitant finalement, c'est en quoi cette œuvre tient. Toujours. Mmh. Elle le tient dans le temps et elle le tient comme un verre sur un parapluie. Évidemment, ce qui est intéressant chez Magritte, c'est pour moi en tout cas, c'est que c'est un saboteur. C'est quelqu'un qui, d'une certaine manière, est capable de mettre du désordre dans les apparences, qui sait exactement ce qu'il fait, à savoir, il dit « mes peintures, ce sont des images ». Bon, quand vous arrêtez là, vous avez un révolutionnaire postmoderne, déjà à l'époque où il peint.
Absolument.
Sa peinture a quelque chose d'une... platitude extrême, mais c'est là que se joue sa peinture, justement. C'est de la peinture sans aide de la matière picturale. C'est un peintre qui est toujours dans un rapport de contradiction entre le signifiant et le signifié. Enfin, est-ce que le mot renvoie à telle image qui est dans la convention? Donc, quand je dis saboteur, c'est justement quelqu'un qui agit à l'intérieur des systèmes de convention. Et justement à travers les choses du réel, la banalité, le quotidien.
Sauf erreur, en plus, le sabotage, ça vient de Belgique. Hein.
En plus, oui.
On a vu qu'il a mis les sabots dans les engrenages pour bloquer l'usine.
Voilà. Et donc, je trouve que l'intérêt de Magritte, c'est de le confronter, je dirais, plutôt à une imagerie actuelle. C'est-à-dire ce qui fait déjà image dans l'image. Et donc, il peint comme on fait une image. Mais par ailleurs, l'exposition qui est construite sur 5 salles, vous l'avez dit, et qui toutes sont, avec une avancée historique qui est le mythe de la caverne, le veau d'or, les histoires naturelles de Pline, c'est-à-dire les raisins de Paradios, c'est-à-dire vous savez, l'histoire dans laquelle on trompe l'œil de l'homme, oui ou non, c'est les oiseaux qui viennent picorer le raisin. Enfin, il y a donc des paradigmes picturaux qui sont à l'entrée de chaque salle et qui serait comme une sorte d'explicitation ou de conduite à mieux comprendre Magritte. Je ne le crois pas. Je pense que Magritte est quelqu'un qui cherche pas la compréhension. Au contraire, si c'est quelqu'un qui veut mettre du désordre dans les apparences, auquel cas où se trouve justement la malignité de Magritte pour que justement on reste face à ces tableaux qui sont simples et qui sont très complexe parce qu'il déroute sans arrêt.
Mais chacun individuellement, c'est ça qui est compliqué. Je pense que c'est compliqué pour le coup de faire une rétrospective Magritte parce que chaque tableau est une rencontre, ben, c'est un peu, ça fait un peu truiste, mais une rencontre singulière. C'est-à-dire que, effectivement, à chaque fois, il rejoue cette question du signifiant, du signifié, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on comprend, qu'est-ce que ça nous dit, qu'est-ce que ça nous dit pas. Et c'est un rendez-vous singulier avec chacune des toiles. C'est pour ça que moi, les salles, je n'ai pas compris. En effet.
Oui, bon, il a réuni par un certain nombre de signes, ce qui est enfin, malheureux bon. Parce que
c'est Magritte quand même feignant. Dit...
Ah non, je sais pas, mais Magritte disait je ne peins rien de symbolique, il n'y a rien à interpréter. Autrement dit, lorsque vous faites une classification, vous faites une collecte de tableaux qui se ressemblent entre eux, le feu sur certains objets, par exemple, parce que c'est l'éclairage aussi du mythe de la caverne. Donc tout ça est assez téléphoné et ça ne donne pas la liberté, la subversion, je trouve, des images chez Magritte. Et pour le coup, je trouve que c'est un des peuintres, même si sa peinture fait image, il n'y a pas de matière. C'est une peinture sans matière, on pourrait presque dire. Et je trouve qu'il a l'art de maîtriser cette image avec de la peinture, ce qui est déjà, je trouve, une qualité extrême. Mais par ailleurs, c'est quelqu'un qui arrive à relever la dimension de la contradiction au sens dynamique. Je prends un exemple. Il y a un tableau qui s'appelle la réponse imprévue. C'est une porte dans laquelle il y a une trouée. Et cette trouée est obscure. Magritte dira « un trou informe, dévoile la nuit ». Autrement dit, la porte est toujours fermée quand elle est ouverte. Donc on est dans des rapports où, je dirais, on ne sort pas de la peinture. Il n'y a pas de monde extérieur, il n'y a pas de symbolique, parce que ce que cherchait quand même Magritte, c'est de maintenir une sorte de mystère. Parce que s'il cherche la relation insoupçonnée, s'il cherche la relation impensée et chercher à la révéler, il faut la maintenir comme une énigme. C'est la raison pour laquelle je pense, indépendamment du fait qu'on voit beaucoup Magritte partout, je veux dire, sa peinture tient dans le temps du fait de ce rapport énigmatique. La porte passe à la nuit, la matière à l'immatériel, et il a une manière d'agencer toujours deux plans hétérogènes à la fois, qui revient à faire proprement la lumière avec ce qu'on a dans le tableau. Et quand vous cherchez à faire de la lumière avec des mythes et des paradigmes picturaux, je pense qu'on écrase la lecture de Magritte à travers une histoire de la peinture. Et moi, je le trouve assez dommageable.
Harry Bellet, sur l'expo cette fois.
Bah, je ne la trouve pas feignante du tout, contrairement à ce que je viens d'entendre. D'abord parce que
ça
n'est pas une rétrospective, c'est un point de vue, un parti pris de la part du commissaire Oettinger, qui est, à mon avis, tout à fait en liaison avec ce que me disait il y a 30 ou 35 ans José Vauvel. C'est-à-dire qu'il s'agit de littérature dans le cas de José Vauvel, il s'agit de philosophie. Et ça n'est pas totalement idiot. Il a eu une correspondance avec Foucault assez suivie à la sortie des mots et des choses. Le philosophe répondait au peintre qui lui posait des questions qui semblaient être pertinentes. Les tableaux, c'est pas choisi n'importe comment. J'en avais jamais vu autant venu de collections privées, c'est-à-dire rarement visibles.
Ça, je l'ai dit, oui. Je m'en félicite. Oui, je m'en réjouis.
Mais tout le monde peut s'en féliciter. Ouais. C'est toujours bien de voir des Magritte qu'on connaît peu.
Ah bah bien sûr, hein, de les voir en vrai.
Voilà, de les voir en vrai, même si, je vous l'accorde, c'est pas un platement, sauf la période vache de 48.
Oui.
Montre qu'il pouvait être expressionniste quand il était un peu énervé, lui aussi.
Oui. Est-ce que c'est ce qu'on préfère?
C'est ce que le marché détestait le plus.
Et vous?
Moi, je trouve que là, pour une fois, c'est peint. Eh oui, ben, ça a duré 6 mois.
C'est pas parce
mais
que de la matière que c'est plus peint que là où
pain,
on est dans
pain, du... C'est peint, ouais. C'est peint avec des choix d'ailleurs qui sont toujours... Enfin, il ne pouvait pas faire pire dans les choix de rapport de couleur. Il y en a très peu, il y en a 2 ou 3. Mmh. Mais bon, ça fait toujours du bien de rappeler que ça a existé.
Ah, mais c'est important, oui. C'est voilà. D'où l'aspect rétrospectif.
Mais ça n'est pas une rétrospective, sinon il y en aurait mis plus. Parce que ça, il pouvait le faire, bien sûr. Non, il a voulu montrer le côté philosophe. Alors, à tort ou à raison,
c'est toute la question. Là.
Mais je pense qu'il a pas tort. Et en tout cas, c'est le premier à l'avoir essayé. Bon,
ouais.
Je pense qu'il a pas tort parce que il y a quand même, il y a quand même des questions qui se posent sur son jeu, sur qu'est-ce que c'est que la peinture, à quoi ça sert. Pour lui, ça sert à rien. C'est le mot peut remplacer. Bon, je vais reprendre la trahison des images, qui est le titre de l'exposition. C'est le titre original du fameux "Ceci n'est pas une pipe". Bon. Et il a raison, ceci n'est pas une pipe, dit-il en exhibant une pipe Une vraie.
Ça, c'est vous, en vrai, dans le studio.
Dans le studio, oui.
Vous avez ça, c'en est une.
Vous n'avez pas l'image, ceci est une trahison. Mais en fait, c'est aussi une trahison quand je montre cette pipe. D'abord parce que les auditeurs ne la voient pas. Ensuite, parce que ça n'est pas plus une pipe que celle du tableau de Magritte, puisque je n'ai pas le droit de l'allumer dans le studio. Une pipe, ça sert à fumer du tabac, normalement. Voilà. Après, parce que ça n'est pas n'importe quelle pipe, j'ai pas le droit, évidemment, nous sommes sur le service public, de citer une marque, mais les amateurs reconnaîtront le petit point blanc sur le tuyau. Ça a été fabriqué il y a fort longtemps, paraît-il, pour l'armée britannique. C'est le plus solide des modèles de bip. Mais c'est pas plus une pipe quand je vous en parle que celle que vous voyez sur le tableau de Magritte. C'est-à-dire que la trahison des images, c'est aussi la trahison des mots, tels que je viens de vous les donner là. Il y a une vraie réflexion, et c'est pas tous les jours qu'on voit une expo avec une réflexion derrière. Même enfin, si elle est contestable.
Sauf votre respect, mon cher Harry. Est-ce qu'on a vraiment attendu cette exposition pour penser à Magritte de cette façon-là?
Ben, José Vauvel avait commencé, mais bon, c'était il y a longtemps.
Oui.
Corinne Rondeau?
Bah écoutez, qui donc chercherait le savoir de manière si insensée qu'il envoie son fils à l'école pour apprendre ce que pense le maître, Saint-Augustin? Vous voyez, mon cher... non, mais mon cher Harry, Magritte, c'est ça le problème, c'est qu'on veut toujours faire une leçon avec Magritte. Et c'est fatigant. Oui, Magritte peut être... les peintures ou les images de Magritte peuvent servir à faire un bon cours, à avoir une pédagogie sur l'image. Quant à savoir ce qu'il a fait, il est quand même extrêmement mineur de devoir faire encore l'exercice de ses... Alors, effectivement, l'image n'est pas la chose. Grand Dieu, bien sûr, répétons-le à beaucoup de gens. Car vous avez raison, de manière implicite, de rappeler qu'il y a des gens qui confondent la chose et l'image. Ok, mais au-delà du caractère moraliste que nous pouvons avoir, j'ai envie de dire merci d'avoir quand même fait cette exposition pour rendre compte qu'une peinture plate est une qualité et non un défaut, et que dans ce rapport, je dirais presque obsessionnel, à faire surgir où se révèle la peinture à l'intérieur d'un rapport d'agencement d'éléments hétérogènes et poétiques, parce que c'est aussi une contradiction, je dirais, du surréalisme chez Breton. Enfin, il est ailleurs. Magritte est ailleurs. Et il est, je veux dire, c'est un type qui est couillu. Vous parliez de ses écrits, il en envoie plein la tronche à tout le monde. Je veux dire, et surtout à la bienséance et aux bourgeois. C'est pour ça que c'est un agent secret. C'est-à-dire, c'est le type qui a son chapeau melon,
la cinquième colonne,
que personne ne voit et qui est en train de saboter partout. Parce que tout le monde reconnaît un œuf, tout le monde reconnaît une cage, tout le monde reconnaît un oiseau, tout le monde reconnaît une pipe. Et c'est à cet endroit-là qu'il agit. Et quand il dit « Nietzsche pense que sans un système sexuel surchauffé, Raphaël n'eut jamais peint cette foule de Madone », bah, ça veut dire qu'effectivement, il a un autre rapport à la peinture que simplement de se poser la question de comment il faut rendre compte d'un vénérable peintre. Et je crois que sa peinture est subversible, y compris dans son rapport extrêmement sage. C'est ça, moi, qui me sidère. Et les gens passent toujours à côté. C'est joli, mais pourquoi on ne trouve pas, je dirais, l'intérêt percutant. Parce que c'est une peinture percutante quand on commence à se poser la question, je dirais, de ce qui est impensé dans la peinture de Magritte et qui s'appelle la pensée, justement. Parce que son travail, et c'est dans tous ses écrits, la question de Magritte, c'est pas la philo, c'est pas la littérature, c'est pas le signifiant, c'est le signifié, c'est quand même la pensée. Où se trouve la pensée dans la peinture? Alors, la contradiction, ça peut être à la fois le signifiant et le signifié, que un œuf devienne un acacia, avec le mot acacia sous l'œuf dans La Clé des songes, par exemple, mais ça peut être aussi un tableau que j'aime beaucoup, c'est l'Empire des Lumières, où vous avez une maison la nuit, avec le ciel en plein jour.
Celle-là, elle n'y est pas.
L'Empire. C'est une peinture que j'aime beaucoup.
Ouais, moi aussi. Bon.
Et je dois dire qu'effectivement, quand Magritte rappelle en 1938 à une conférence « Ce monde est en désordre, plein de contradictions, et ce monde en désordre, c'est le nôtre », et qu'il y a toujours des explications qui se donnent avec un aplomb, qui rejoint la citation de Saint-Augustin que j'ai faite, c'est cette manière de dire « Écoutez, est-ce qu'on pourrait parler autrement qu'en étant acceptable et vénérable ?» Et je crois que sous ses bons airs de bourgeois, il était en train de mettre des éléments de déplacement à l'intérieur de la peinture. Et c'est la raison pour laquelle moi je trouve que c'est le premier peintre postmoderne. Je trouve que on devrait tous les artistes sur le numérique et la question de l'écran devraient s'y intéresser, parce que sa peinture est un écran avant d'être de la peinture. Le type peint des écrans.
Ouais. Et voilà. Du composite.
Et je trouve qu'il y a une mode, il y a une postmodernité chez Magritte, et on va nous pomper l'air avec des paradigmes picturaux, l'histoire de l'art. Alors c'est sympa, parce que moi, il y avait des tableaux que je connaissais pas, comme le mythe de la peinture, je ne sais plus comment il s'appelait, je l'ai noté, mais je l'ai pas souligné.
Bon.
Mais je veux dire, à un moment donné, c'est fait pour faire des leçons. Et Magritte, c'est pas quelqu'un qui fait la leçon.
Harry. Pour mais, finir.
Je sais pas si on va un peu finir avec non, ça, mais y a parmi les tableaux que je suis content de voir là-bas, un qui s'appelle La lecture défendue, l'usage de la parole, c'est de 1934, c'est pas une collection particulière, celui-là, c'est les musées royaux de Belgique. Alors ça représente une pièce vide avec un escalier qui mène nulle part et puis posé sur le parquet, un doigt tendu vers le plafond, enfin vers une boule qui est suspendue entre le doigt et le bout du doigt et le plafond, un doigt comme ça hein, qui repose sur un prénom Irène. Bien, le prénom Irène est peint sur le parquet. Alors on pense bien sûr au poème érotique publié par Aragon quelques années plus tôt, en 1928, sous un titre qui comporte un mot qu'Arnaud Laporte et mon épouse m'ont défendu de prononcer.
Votre
ici.
Épouse vous défend ce que vous voulez. Moi, je
veux parler du
bip
d'Irène. Voilà.
Vous pouvez dire le con d'Irène. Il n'y a pas de problème.
C'est lui là. Voilà. Ça y est, c'est lui. C'est plus moi. Et là, on est dans un registre.
C'est pas un gros mot.
Non, ça dépend par non, où on le
peut-être pour l'épouse d'Harry, mais...
Oui, pour Arnaud Laporte, deux fois de suite, je l'ai prononcé la dernière fois, je me suis fait disputer.
Ah, mais quand vous le dites trop de fois à la suite, ça vaut pas.
Mais si vous voulez, je peux vous lire
non.
ce...
Non, vous me montrez non. une page que je ne vous laisserai pas lire.
Non, là, parce que là, il y a des bips partout, c'est
oui,
un tract de 46.
Bon, on a compris que vous aimiez les bips, et on va se poser la question de l'image du bip.
Mais non, mais peut-être que c'est ça qui est intéressant aussi chez Magritte, c'est le mot.
Oui,
bah oui, le mot qui crée de la pensée.
Plus que le pain. Et le mot, bah vous voyez, on peut le dire moins facilement que le pain.
Ben oui, ça nous amène de la pensée, de la subversion, mais certainement pas un cours de philosophie. Donc c'est QFD. Nous sommes tous d'accord finalement sur cette exposition qu'il faut absolument aller voir, parce qu'on y voit des toiles qu'on a jamais ou très rarement vu, beaucoup de collections particulières en effet, et puis des prêts de musées du monde entier. Après, on peut avoir un avis différent sur la façon dont cette exposition est accrochée et présentée, mais en tout cas, Magritte, la trahison des images, c'est au Centre Pompidou jusqu'au 23 janvier. Ce recueil de lettres donc paru aux éditions Flammarion, cette réédition, René Magritte, cette édition établie, annotée par André Blavier, écrit complet. Il y a un catalogue, évidemment, édité pour l'occasion par le Centre, et puis aussi chez Citadel et Masno, monumental à tous les sens du terme, monographie signée Bernard Marcadet, très grand format, qui rend justice aux œuvres, parce qu'on sait que cette maison fait de très belles reproductions. C'est donc Magritte Marcadet chez Citadel et Masno.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.
Nous parlerons tout à l'heure du printemps de septembre, mais avant cela de Baudelaire, Matisse et Chagall. Et avant cela encore, nous rentrons dans le petit salon à la suite de Lucille Comeau. Et ce soir, Lucille Comeau, vous nous parlez enfin de Kim Kardashian.
Oui.
J'attendais quand même, au bout de 4 semaines
déjà
et demie.
Déjà parlé d'un musée, mais on va arriver à Kim Kardashian.
Ah bon.
Il y a quelques jours, le Broad Museum à Los Angeles a publié ses premiers chiffres de fréquentation un an après son ouverture. 820 000 visiteurs, 3 fois plus que les prévisions. C'est à peu près la même chose, pour avoir une idée, que le palais de Tokyo en 2015. Ce qui est surtout intéressant, c'est de se pencher sur le profil des visiteurs. Beaucoup de jeunes, beaucoup de non-caucasian, comme disent les Américains, ça veut dire non-blanc. Et surtout, 80% des visiteurs ont déclaré à l'entrée avoir pas ou peu de connaissances dans le domaine de l'art contemporain. Broad, c'est large en anglais, le Broad Museum est donc assez représentatif d'un phénomène de migration de l'art contemporain aux États-Unis. Car traditionnellement, artistes, collectionneurs, galeries et musées sont plutôt les affaires de la côte Est, New York en particulier. Mais depuis quelques années, ça s'est accéléré très fortement ces derniers mois, les galeries dessertent Manhattan. Le 28 août dernier, par exemple, la galerie Lisa Collet dans le Lower East Side fermait. Il y a quelques jours, c'était le tour de la Kansas Gallery. À Manhattan, les loyers sont trop chers et surtout augmentent trop vite, et les galeries qui veulent plus d'espace d'exposition déménagent. Le 22 septembre dernier, par exemple, la galerie d'Elizabeth Dee quittait Chelsea pour Harlem. ça reste New York, me direz-vous. Mais on part souvent plus loin, et notamment pour rejoindre les cieux californiens. Les galeries fleurissent sur la côte ouest. Les collectionneurs sont là. De nombreux artistes aussi, sortis des écoles d'art de Los Angeles, qui sont de plus en plus réputés. Ou alors des artistes qui viennent s'installer là parce qu'il y a plus d'espace et des loyers abordables. Sans parler des facilités que la ville offre aux artistes vidéastes, qui peuvent profiter des infrastructures d'Hollywood. Les deux grandes institutions qui exposent de l'art contemporain, qui sont le LACMA et le MoCA, attirent de plus en plus de visiteurs, et l'ouverture de cette grosse nouvelle institution comme le Broad Museum n'a absolument pas freiné leur fréquentation annuelle. Alors Los Angeles redeviendrait-elle une cité de création et d'avant-garde, ou est-elle simplement un énorme marché où se côtoient des artistes qui sont des vendeurs et des collectionneurs qui sont des acheteurs ? Forcé de constater une collusion grandissante entre industrie du divertissement et création artistique, c'est très à la mode pour les célébrités, vous me voyez venir, de la pop et du cinéma, de venir au vernissage en galerie ou dans les grandes expositions des institutions. Le dernier Art plus Film Gala, un événement dédié à la vidéo d'art, était animé par Leonardo DiCaprio. Le sponsor, c'était Gucci, et sur le tapis rouge, on a pu apercevoir Kim Kardashian.
Ah, enfin, on y arrive à Kim. Elle était avec Kanye, j'espère. Hein. Pas d'histoire de ce côté-là. Mais oui, cette migration, elle est réelle. On la voit depuis quelques années déjà. Bah, d'abord, je pense que les artistes, les premiers, ont quitté New York et Manhattan au loyer exorbitant pour aller vers la côte ouest, et que du coup, les galeries, forcément, ont envie d'être plutôt près de leurs artistes aussi. Mais pour elles aussi, les galeries, les loyers de Manhattan, de Chelsea, puisque c'est à l'heure actuelle, depuis quelques années, de nouveau le quartier des galeries, ont aussi fait cette migration. Le grand voyageur Harry Belay confirme cette tendance.
C'est, en fait, dans le cas précis de Los Angeles, c'est, ils étaient déjà là avant.
Il y en avait qui étaient là.
Non, mais vraiment, la scène artistique de LA s'est constituée dès les années 50 et peut-être même avant. Et elle est restée sur place parce qu'ils ont tout ce qu'il faut sur place. Ils ont des universités où ils enseignent. Des galeries, il y en a quelques-unes bien plus anciennes que celles que j'ai vu s'ouvrir. La plus récente que j'ai vu s'ouvrir là-bas, c'est une succursale de Hauser & Wirth, la galerie originaire de Zurich, qui est une succursale à Londres. La galerie Hauser & Wirth de Los Angeles fait 10 000 mètres carrés, un hectare. voilà, ça donne d'accord. À peu près la mesure des choses locales. Mais il y a d'excellentes galeries, comme celle de Louis Stern, qui est établie là-bas depuis 25 ou 30 ans et qui faisait déjà son travail. Les universités, les musées universitaires font aussi remarquablement bien leur travail. Le musée Broad, c'est un peu particulier. C'est Eli Broad, c'est le Kaufman et Broad. Mm-hmm. Pardonnez-moi pour la publicité.
Bah oui, mais c'est un fait.
Voilà, c'est le Broad de Kaufman, ou le Kaufman, bref. Il a une très très belle collection, remarquable. Il a ouvert un très beau bâtiment, juste en face du MoCA. Alors, là, je suis un peu moins d'accord. C'est vrai que quand j'y suis allé, c'est peut-être pas représentatif, mais il y avait franchement moins de monde au MoCA qu'au musée Broad, d'autant que l'accès du Broad est gratuit. Et qu'il y a un vrai travail de médiation qui est fait là-bas, qui est assez fréquent aux États-Unis, mais qui est vraiment là, ça commence dès la file d'attente. Hein, puisque c'est gratuit, il y a du monde qui fait la queue. Dès la file d'attente, il y a des gens qui viennent vous donner des plans, des explications sur ce que vous allez voir ou pas. Donc c'est effectivement un travail remarquable. Ce qui est plus surprenant, et là je suis aussi surpris que vous, c'est que ça a effectivement attiré des gens qui vont jamais au musée, et ça a attiré des gens qui vont jamais au musée parce qu'il y a des very beautiful people qui l'ont fréquenté très tôt, sans que je sache très bien pourquoi, et qui ont posté sur les réseaux sociaux, Instagram notamment. Il y a même eu un clip de réaliser là-bas par je ne sais plus qui, et tout d'un coup ça a attiré vers ce musée une population qui est plutôt beaucoup plus jeune que d'habitude, effectivement beaucoup plus mélangée que d'habitude, bien moins éduquée que d'habitude, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne le deviendront pas. Et c'est un vrai phénomène, parce que d'une fréquentation comme celle-là, si elle peut être Tokyo, c'est vrai, mais bon, prenons un autre exemple, le centre Pompidou Metz, qui est une réussite, première année, exceptionnelle, 500 000 visiteurs. Là, on est à 900 000. C'est exceptionnel. Je ne connais pas d'équivalent.
Bon, ben, ce sont des bonnes nouvelles, tout ça, Corinne Rondeau, ça vous inspire
Ça m'inspire que... C'est vrai que la côte ouest a toujours été un peu plus subversive quand même, sur un forme de laboratoire, on va dire. Même sur la Judson Dance, sur les manifestations de danse dans les années 60, c'est, ça s'origine quand même sur la côte ouest. On pense à McCarthy, on pense à Makelele, enfin... et effectivement, les universités là-bas sont quand même très à la pointe, et les écoles d'art aussi. Donc moi, pour des questions économiques, quand tout le monde transite, je pense qu'effectivement, toute l'histoire de l'art est peuplée d'événements de migration, de transfert d'artistes selon les questions d'histoire. Là, en l'occurrence, c'est une question économique. Et puis Harry vient de donner une information quand même cruciale, Instagram. Où est-ce qu'on trouve une nouvelle population de gens, si c'est gratuit? Je veux dire, si c'est à peu près la même population, sur le, enfin, le même nombre d'individus au Palais de Tokyo, c'est quand même pas le Tokyo est payant, il faut quand même le rappeler aussi. Donc voilà, et moi je serais intéressée de savoir quelle est leur programmation, par exemple, à ce musée.
Alors c'est plutôt les collections Broad.
Ce sont que les collections
qui sont assez vastes. C'est un des plus gros collectionneurs d'art moderne et contemporain du monde. D'ailleurs, on parle beaucoup de François Pinault, que nous respectons tous, mais Broad a commencé avant et il a des œuvres qui ne sont plus accessibles aujourd'hui, notamment sur le pop art. C'est vraiment passionnant à voir. Mais c'est plutôt les collections Broad. Oui, c'est
d'accord, des collections.
Pas d'exposition temporaire.
Pour l'instant, non.
Mais peut-être des raccrochages de collections.
Par contre, sur les collectionneurs locaux, je suis beaucoup plus dubitatif.
Ouais.
Il y en a assez peu, au fond. Paradoxalement, des grands collectionneurs californiens, à part Broad, il y en a assez peu. Et c'est plus pour conserver leurs artistes californiens que des galeries comme Moser & Wirth ouvrent des espaces là-bas que pour attirer des collectionneurs qui sont pas vraiment présents, en fait.
Lucille Comeau ?
Ça m'a donné l'impression, à la lecture de plusieurs articles que j'ai lus sur le sujet, qu'il y avait vraiment un fonctionnement dynastique, peut-être que c'est le cas à New York aussi, d'ailleurs je ne le sais pas, mais en Californie, qui faisait que les grands artistes avaient essaimé vraiment autour d'eux, notamment une des galeries qui est la plus en vue aujourd'hui dans Downtown LA, qui est cette espèce de nouveau quartier où il y a apparemment vraiment des galeries qui fleurissent, c'est la fille de Paul McCarthy, typiquement. Et apparemment, il y a quand même plusieurs comme ça, filles de grands artistes californiens qui... reprennent le flambeau et ouvrent des lieux différents dans ce quartier-là.
Rébellé, une information sur ce sujet ?
En fait, il y a probablement des filles d'eux ou des héritiers d'eux, mais c'est d'abord du business. Chimel, nous avons aussi deux galeries de Gagosian là-bas, qui est originaire du coin. Hein. Il a commencé à LA. Il y a un vivier d'artistes, un vivier important, un vivier d'artistes qui marche très très bien depuis maintenant longtemps, et on veut les conserver. Donc si on veut les conserver, il faut pouvoir les exposer chez eux. Ce qui est assez amusant, c'est qu'il y a un musée universitaire, j'ai oublié le nom de l'université, j'espère que les responsables pédagogiques me pardonneront, mais il y a un musée universitaire qui est très très joli, et lorsqu'on regarde la liste des donateurs, parce que les universités acceptent des donations privées, les plus gros donateurs, c'est des galeries, parce que les artistes sont enseignants là-bas, et évidemment, on pensait que le plus gros ce serait Gagosian, et ben non, cette année c'est Moser & Wirth, le Suisse.
Et ben voilà, qui arrive, qui fait savoir qu'il arrive. Bon,
juste une petite précision, là, je relisais rapidement, mais ici, il y a des expositions temporaires apparemment au Broad, il y a notamment eu une grosse exposition consacrée à la photographe Cindy Sherman, cette année, qui a bien marché apparemment.
Bon, à suivre la programmation du Broad Museum et surtout les sorties de Kim Kardashian. C'est l'heure des recommandations des critiques présents ce soir. On commence du coup avec Corinne Rondeau, à qui à la fois l'œil sur Baudelaire et sur Matisse, si je puis dire. Exposition, livre.
Oui, c'est le musée de la vie romantique, c'est un musée que j'aime bien.
Bah oui.
Évidemment, bon, alors je dois dire que si Arnaud Laporte.
Oui, c'est moi.
Vous rappelez-vous de ce que dit Baudelaire dans ses curiosités esthétiques et la romantique.
À quelle page, dites-moi ?
Qui correspondent quand même à deux volumes de l'œuvre complète de Baudelaire. On se rappelle grosso modo de Lacroix, on se rappelle de Manet un peu, mais finalement on n'a rien de cette histoire, vraiment de ses écrits, de ces deux volumes des œuvres complètes. Et donc cette exposition, c'est un peu comme si Baudelaire était là, puisqu'en fait c'est un choix d'œuvres que Baudelaire a vu dans les salons, puisqu'il commence son aventure en 1845-1846, où il va même signer dans des petits journaux le Tintamarre avec des pseudos. Il va commencer à avoir son œil. On va voir dans cette exposition exposition des choses absolument formidables et absolument sidérantes, puisqu'on voit qu'il a très mauvais goût. Et c'est absolument formidable. Constantin Guis, dont on nous parle, enfin, il est proche de ce peintre qui dessine à la plume aussi, qu'il a beaucoup regardé. Il y a des dessins à la plume de Baudelaire. Et ce qui est formidable dans cette exposition, c'est à la fois qu'on voit que ce jeune auteur qui reprend le flambeau un peu de la tradition initiée par Denis Diderot va se mettre très vite à regarder ce que les autres ne regardent pas. Et on fait aussi, je dirais, son chemin à travers les chemins de traverse ou les bordures ou les marges qu'il a très bien compris. Et donc, cette exposition est à la fois formidable et à la fois elle demande beaucoup de temps. Pourquoi ? Parce que d'abord, on est confronté à des œuvres qu'on ne connaît pas. Alors là, par exemple, Baudelaire, et non pas Matisse, met à regarder un tableau d'Indien. Je vous assure que quand je l'ai vu dans la première salle, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Alors, il faut simplement que j'arrive à retrouver le nom du peintre.
C'est le catalogue de l'exposition.
Georges Catelin, et j'ai mes lunettes, pardonnez-moi. Donc, vous voyez un peu, c'est un portrait de peintre, ça, c'est... Donc, on est en 1846, des tableaux qui sont absolument improbables à voir, où on n'imagine pas, il a écrit là-dessus, et ce qu'il y a de formidable dans l'exposition, et qu'on a dans le catalogue aussi, puisqu'il y a un catalogue...
C'est un Indien d'Amérique,
tout...
hein, je précise.
Oui, c'est un Indien d'Amérique, et en fait, on l'a dans l'exposition, mais aussi à la fin du catalogue, vous avez toutes les expos qui sont inscrites, avec des extraits, des œuvres complètes, ou ce que Baudelaire décrit dans les œuvres complètes qu'on retrouve. Mmh. Donc vous avez un vrai chemin vivant de ces salons chez Baudelaire, et donc c'est aussi pour fêter le 150e anniversaire de la mort de Baudelaire.
Bah, il faut quand même dire que les commissaires d'expo, parce que l'œil de Baudelaire, c'est Robert Cobb, c'est Charlotte Manzini, Jérôme Farigou, et Sophie Éloi. J'ai dit quoi ?
Non.
Moi non plus, j'ai pas mes lunettes, c'est
non,
ça ?
Non, Jérôme Farigoul, Charles Manzini et Robert Cobb. Robert Cobb.
Sophie Éloi.
Robert Cobb, qui est en fait doublure vivante de Charles Baudelaire. Comme on dit chez nous, espantée par le bonhomme. Et par Charlotte Manzini aussi, qui a fait un tout petit. Enfin, qui a participé. Tous les trois sont des commissaires de l'exposition et c'est un chemin absolument délicieux entre des gravures, du daumier, des lettres, la dédicace de Flaubert à Baudelaire. Cher Baudelaire, écrit B-E-A-U, merci sympa. Vous avez des lettres de Victor Hugo, vous avez des lettres à Charles Nadar, vous avez à lire et à voir. Et c'est un chemin dans la vie des salons de Baudelaire. Donc c'est absolument formidable. Et en même temps...
Et l'exposition, donc je rappelle, s'appelle L'œil de Baudelaire. Elle est au Musée de la vie romantique à Paris jusqu'au 29 janvier. Et vous avez en plus envie d'en parler d'un livre.
Et oui,
forcément.
En même temps, il y a Les Fleurs du Mal qui sont rééditées en fac-similé de l'édition de 47 chez Azan. C'est un livre tout à fait étonnant dans la mesure où je ne savais pas ce que Matisse avait fait. Et en fait, ce sont des têtes d'expression qu'il y a entre les poèmes, avec des sortes aussi de lettrines ou de dessins qu'on connaît très aérés, mais qui représentent rien, on va dire, en soi. Et donc ça scande le livre de manière très étonnante, puisque ces visages sont assez décalés, finalement, des poèmes de Baudelaire, sachant que 47, c'est... avant les poèmes qui ont été réintroduits dans l'édition, puisque c'est en 49 qu'on lève l'interdiction des poèmes interdits. En tout cas, vous pouvez le trouver, ces informations, dans le petit texte de Stéphane Guéguen qui est édité en plus et hors le livre, ce qui est formidable. C'est-à-dire, vous avez un coffret, vous avez le fac-similé, et puis vous avez un texte d'accompagnement de ce livre-là. Donc moi, ce que j'ai trouvé étonnant, c'est ce rapport entre ces visages de femmes et ces visages d'hommes, dont celui de Matisse.
Pas Magritte, non.
Et de Baudelaire aussi, et ces visages de femmes qu'on retrouve, l'orientalisme, la haïtienne. Et donc, ce que je trouve assez beau, ce rapport d'altérité entre nous lisant et regardant ces scansions de visages à travers la lecture. Donc, c'est intéressant d'avoir une actualité sur Baudelaire.
Oui, Matisse Baudelaire. Les Fleurs du Mal illustrées par Matisse, donc ce fac-similé chez Azan et ce texte de Stéphane Guéguen qui l'accompagne. Si on parlait de Chagall à présent, Harry Bellet, Chagall, Landernau.
Moi je suis très content d'avoir vu ça parce que Chagall, j'y comprends rien. Vous savez, les violonistes volants, les chevaux l'herbe rose, les amoureux qui font tout sauf ce que font les amoureux d'habitude. C'est un truc qui m'est totalement étranger, mais on vient de rendre un hommage. mérité à Robert Koch. Moi, je voudrais rendre un hommage mérité à Jean-Louis Prat, l'ancien directeur de la Fondation MACT. Ça fait des années qu'il essaie de me persuader que Chagall, c'est important. Je crois qu'il a enfin réussi.
Écoutez, comme quoi, la persévérance paye.
Voilà, et je crois qu'il a enfin réussi en prenant un biais qui va nous ramener au sujet précédent, c'est le biais de la poésie. Quand on se rend compte, en voyant cette exposition, du nombre de textes sur lesquels Chagall a travaillé, ça fait un peu un fil rouge. Du coup, je raccroche mieux, un peu comme José Vauvel, deuxième hommage, troisième hommage, un peu comme quand José Vauvel me disait « je comprends mieux le surréalisme parce qu'il y a du texte derrière, là je comprends mieux Chagall parce qu'il y a du texte à côté ». Et du texte à côté vu par un type qui vient de très loin pour illustrer les fables de La Fontaine. Il vient d'un shtetl juif russe. Il découvre la France et il va nous la montrer, la France des fables de La Fontaine, même s'il a un peu pompé sur Ésope, je parle de La Fontaine. Il nous montre des paysages, des animaux, des gens qui tout d'un coup reprennent du sens pour moi qui ne comprenais rien aux petits animaux bizarres qu'il peignait dans le shtetl. Alors quand on découvre la liste des choses ou des gens qu'il a illustrés, ça devient complètement à la fois une histoire de la littérature et une histoire de la littérature du XXe siècle, mais pas seulement. C'est Marot avec l'espoir, et juste après Don Quichotte. C'est Louis Aragon, mais c'est aussi Gogol. Alors Gogol, c'est drôle parce qu'à l'origine, la commande, c'était sur le général d'Ourakine, à la comtesse de Ségur. Et lui préfère les âmes mortes. Bon, c'est un choix, et il l'impose. C'est Paulhan, c'est La Fontaine, c'est la Bible, c'est le Décaméron de Boccace, et on est là, dans un foisonnement de livres qui ont été soutenus d'abord par Vollard, puis, si ma mémoire est bonne, par Thériade, qui sont aujourd'hui parmi les monuments bibliophiliques du XXe siècle, et c'est une expo qui est vraiment épatante, surtout qu'il n'y a pas que des illustrations, là où il est génial, mais il y a aussi des tableaux où, fondamentalement, même si j'y comprends rien, il n'est pas mauvais non plus.
Chagall, de la poésie à la peinture, c'est jusqu'au 1er novembre, au Fonds pour la culture, Hélène et Édouard Leclerc, c'est à Landerneau.
France Culture,
La Dispute,
Arnaud Laporte.
Et nous poursuivons cette dispute consacrée le mercredi soir aux arts plastiques en nous rendant à Toulouse pour y découvrir la nouvelle édition du printemps de septembre, une manifestation qui a connu des hauts et des bas, dont le commissaire est à nouveau Christian Bernard, l'ancien directeur du MAMCO à Genève, qui avait déjà livré, me semble-t-il, deux éditions merveilleuses de ce printemps de septembre. L'attente était donc grande. Alors, comment s'emparer d'une manifestation de l'ampleur du printemps de septembre ? C'est une des difficultés de l'exercice, qui plus est radiophonique, dans un temps limité. Alors, il y a un sous-titre dans la pluralité des mondes. Les sous-titres de ce type d'exposition, c'est toujours un peu compliqué. Est-ce que vous pouvez déjà m'expliquer ce titre, moi qui n'ai pas encore été à Toulouse, Corinne Rondeau, malgré l'envie que j'en ai très grande, grâce à Christian Bernard ?
Je crois que le titre, je l'ai compris après avoir vu les œuvres. Où c'est vrai que ça peut être un titre passe-partout, là, dans la pluralité des mondes. Bon, est-ce que c'est justement le monde des possibles ? Et je crois qu'en fait, c'est tout le contraire des mondes des possibles. Le monde des possibles, c'est si tout est possible, rien ne l'est. Et je crois qu'en l'occurrence, Christian Bernard a choisi de nous faire une exposition, enfin des expositions qui nous mettent au régime sec. Et j'aime assez, je dois dire, cette manière dont l'art peut-être aussi cette manière de ne pas jouer l'entertainment, le spectaculaire, d'en mettre dans la gueule à tout le monde. Et peut-être aussi que Christian Bernard, qui a quitté le MAMCO désormais, se repose en toute liberté la question du musée. Il faut savoir qu'il y a deux musées dans son parcours. Il y a à la fois le musée préparé aux Augustins, Il y a à la fois l'autre qui est le musée égaré, qui est au musée du Puy, qui est le musée d'art décoratif et d'art graphique de Toulouse. Ce musée préparé, ce sont des œuvres de la collection de la Fondation Cartier, qui sont éparpillées du rez-de-chaussée jusqu'aux étages de peinture, entre des gisants et de la sculpture gothique et romane, jusqu'aux étages romantiques, avec une sorte de, là encore, de d'épure, on va dire. Imaginez un Saint-Louis de Toulouse, deux autres saints qui sont Saint-Antoine et l'autre, je ne me rappelle plus, et une petite sculpture de pierre avec du riz autour, qui est en fait une œuvre de Wolfgang Leib. Et ça, c'est absolument formidable parce que c'est rien, c'est discret et tout se joue. Ou alors d'autres œuvres qui sont beaucoup plus étranges dans la partie des collections. Vous avez un ciel étoilé de Thomas Roof au milieu de peintures figuratives. Mais en même temps, vous avez un mur où il y a un dessin, peut-être même une phrase, dans lesquelles on part de Pierre Klosowski jusqu'à des œuvres plus minimalistes, étranges. Et entre, il y a des peintures de femmes, des nus. Et donc on se dit, mais alors, il y a un Sugimoto aussi un peu plus loin, un paysage où il n'y a rien. Et ce qui est beau dans cet accrochage, c'est que ça ne parle pas beaucoup. Et ça crée une constellation qu'on va retrouver partout ailleurs dans le parcours de cette exposition. Et je pense qu'en fait, Christian Bernard s'est posé non seulement la question de la toile d'araignée, la constellation de ce parcours en se posant la question du musée. Le musée égaré, cette fois-ci au musée du Puy. Il a travaillé avec Charles Hesch, vous savez, c'est le directeur à Eindhoven du musée Van Abbe Museum, qui a un travail critique comme à la Reina Sofia à Madrid, qui sont des personnes comme Christian Lacroix qui sont posées la question. Christian Bernard qui sont posées la question de qu'est-ce que c'est qu'un musée aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que des réserves, où on va ressortir effectivement tout ce qui n'a pas été exposé au musée du Puy. On va travailler avec des œuvres qui sont à la fois qui ont une perspective anthropologique, mais aussi de l'art brut, de l'art primitif. Et donc, tous ces écarts jouent pour le spectateur dans ce parcours, jusqu'à des œuvres qui sont extrêmement déceptives. Je pense notamment au Château d'Eau, où il y a Dominique Lang, où il y a un circuit de tubes qui passe à travers de la porcelaine dans ce château d'eau, et puis on arrive à des bacs d'eau avec des bobines argentiques qui ne sont pas développées, mais c'est le château d'eau, le lieu de photographie à Toulouse, et c'est aussi un lieu d'eau, comme le nom l'indique, hein. Et on voit bien qu'il y a quelque chose d'un parcours, d'une circulation qui s'impose, mais à minima. Et je crois que la phrase, pour moi, je crois que dès que je suis sortie du musée du Puy en allant vers Château d'Eau, j'ai eu la phrase de Kafka, je crois que c'est dans son journal, il reste à faire le négatif, le positif nous est déjà donné. Je crois que cette exposition, elle est à cet endroit-là. Comment on peut penser justement des œuvres, même dans leur dimension déceptive, c'est-à-dire qui relèvent d'une altérité. Qu'est-ce que les spectateurs attendent? Qu'est-ce que c'est qu'une œuvre aujourd'hui? Quand justement on la sort, je dirais, de son rapport au musée pour l'exposer, faire l'exposition, pour que tout soit vu. Et il travaille, je crois, sur des creux et des trous, comme aux Augustins, où il y a des œuvres où on voit pas ce que ça a à faire là, mais ça fait trou dans la collection. Justement, ce trou pose la question de l'altérité. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu veux voir? Et quand, par exemple, on arrive là au Théâtre Garonne, qui est assez formidable, mais aussi les abattoirs, on a un dialogue, il a choisi de faire un dialogue, qui est initié entre Aurélien Froment aux abattoirs et Raphaël Zarka. Leurs œuvres, qui peuvent être très formalistes, discutent et dialoguent à travers de la photographie et de la sculpture géométrique. Et de l'autre côté, on a Stan Douglas et Ragnar Karstensson, et qui se pose aussi la question de la dimension opératique. Qu'est-ce qui se passe dans un ensemble? Et ce qui intéressait là, pour le coup, l'œuvre de cet Islandais.
Ragnar Karstensson.
Voilà.
Formidable, qu'on a vu au Palais de Tokyo il y a peu de temps.
Voilà, avec ses écrans, avez vus. Donc, tout le monde chante avec un casque. Et en fait, on est relié. La pièce s'appelle Les Visiteurs. On voit bien que le parcours, la totalité du parcours des œuvres qui se passe dans cette édition, de cette pluralité des mondes, c'est justement comment on communique quand on n'est pas à l'endroit de la communication et qu'on se réunit à travers une étrangeté, autrement dit une altérité.
altérité présente en la personne d'Harry Bellé pour un autre regard sur le printemps de septembre.
On va essayer. Sur Ragnar Kjartansson, je suis parfaitement d'accord. C'est une pièce étonnante où des musiciens jouent un air assez improbable d'ailleurs, mais dans une très grande maison du 19e, chacun est dans une pièce, isolé, séparés les uns des autres. Et évidemment, chacun sur un écran est projeté. Et c'est magique. C'est-à-dire que là, je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Parce que, mais il y a une vraie.
Il a un don très particulier. Ah non, moi, j'ai beaucoup d'œuvres de cet
vraie,
artiste.
Il y a une vraie magie. Ouais. On n'arrive pas à décoller de la pièce. Alors, juste à côté, son voisin n'est pas totalement mauvais non plus, Stan Douglas. Même un peu plus connu. Et alors, lui aussi, il fait une vidéo. Mais alors, là, c'est plus magique pour des gens de ma génération, parce que ça nous rappelle quelques grands moments de la musique de nos jeunes années, à l'époque où, bon, voilà. Mais vraiment, j'ai été plus scotché.
Bon, comprenne qui
okay,
pourra.
Voilà, non,
je voulais vous en dire un peu plus, on se glace.
Non, je préfère pas. Non, j'étais tellement scotché par l'autre. Et alors, ce qui est marrant, c'est que, alors que d'habitude, j'ai quand même une tendance sévère à être un vieux pipe, là, c'est les jeunes qui m'ont fasciné, vraiment, et notamment puisque on parlait des abattoirs, notamment. Alors, parce que là aussi, Christian Bernard a su s'entourer de gens quand même assez compétents. Les abattoirs, c'est Olivier Michelon qui a fait l'exposition. Il a aussi travaillé avec Thierry Leviès, qui est un jeune commissaire pour l'espace qui est le long de la Garonne, qui appartenait autrefois ou qui appartient, je pense, toujours à l'EDF. Mmh. Mais là, on a Aurélien Froment et Raphaël Zarka. Froment est né en 76, Zarka en 77, et j'allais dire, ils sont encore plus réacs que moi. C'est formidable. Ils vont me faire découvrir des choses que je connaissais pas, non seulement l'histoire de l'art, mais aussi l'histoire des sciences. Et alors, ils m'ont fait découvrir Friedrich Froebel. Ça, c'est Froment. Friedrich Froebel fait tout un boulot sur... parle de Friedrich Froebel auquel il rend hommage. Friedrich Froebel, pour ceux qui le connaissaient pas comme moi, c'est 1789-1859, c'est l'inventeur du jardin d'enfants, mais aussi des jouets qui vont avec. Bon, et parmi les bambins qui vont jouer avec les jeux géométriques imaginés par Froebel, on va avoir Mondrian, Kolinsky, qui vont grandir et qui vont refaire ce qu'ils ont appris au jardin d'enfants. C'est un des objets géométriques. Et là, tout d'un coup, je me retrouve dans un monde que j'ignorais et qu'un jeune artiste me fait découvrir de manière extrêmement ludique, extrêmement remarquablement bien mis en scène et réalisé. Et Zarka, lui, il m'a fait découvrir un mot et une forme géométrique que j'ignorais aussi. Merci. Je vais essayer de pas me tromper en le prononçant. Le rhombicuboctaèdre, qui est une forme géométrique apparemment simple, mais qui ne l'est pas tant que ça. Et il est allé faire une sorte de recension de tous les rubis, machin, qui existent dans le monde, y compris sous des formes très, très élaborées de bâtiments, d'architecture. Là aussi, c'est fantastique. Il y en a un des deux, je crois, je voudrais pas dire de bêtises. Je pense que c'est Zarka qui a aussi fait un recensement de toutes les sculptures dans l'espace public qui peuvent servir aux skaters.
Ouais. Ça, c'est Zarka, il n'y a pas de
c'est Zarka, ouais.
Alors, grand skater.
Alors là, je ne sais pas, mais les photos de skaters que j'ai vues en train de faire des figures sur des sculptures de Bernard Venet, chapeau. Chapeau, parce que c'est pas évident. Hein. Puis si on se rate, c'est quand même du fer.
Peut-être de l'acier, même.
Peut-être même de l'acier, ça fait mal. Il y en a un dont on n'a pas parlé, il faudrait pas le rater, c'est en Hans Hoopdebeek, qui est un flamand, comme son nom.
Il sera bientôt au 104,
apparemment. Voilà, et qui a fait un jardin de sable, mais gigantesque, je crois que ça fait près de 300 mètres carrés, qu'il a appelé le jardin des murmures. Donc, des sortes de dunes au milieu desquelles on serpente, et avec des petites tentes, on a l'impression de tentes dans le désert, sauf qu'il y en a beaucoup pour un désert, avec des petits feux, des petits abris, on ne sait pas trop bien à quoi ça correspond, puis surtout des petits murmures qui viennent de dans le sable. Alors finalement, si on est 50 dans la pièce, c'est un peu moins perceptible. Déjà tout seul, j'ai pas entendu grand-chose, mais c'est très touchant, et puis c'est pas grave qu'on n'entende pas, parce qu'il y a là aussi, il y a une vraie c'est comme dans le film de Ragnar Kjartansson, on est saisi, j'allais dire immédiatement et sans concept, pour revenir à nos amis philosophes, il y a une vraie sensation très 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 agréable et très magique. Je peux m'en faire un petit dernier. Un petit dernier. C'est Claudia Comte qui a fait à l'instigation, je pense, avec la complicité de Thierry Leviès, dans l'espace EDF le long de la Garonne. Elle a fait une interprétation d'une vieille exposition, encore une fois, les jeunes qui nous font découvrir les vieux, de l'architecte Philip Johnson, qui avait fait au MoMA en 1934 sur l'art de la machine. Et comme on est à Toulouse, elle a utilisé tous les gens qui travaillent autour des industries de l'aviation. Donc elle a mélangé des pièces réelles d'avions avec ces pièces à elle, le tout laqué en blanc par quelqu'un dont le métier est de peindre les avions, posé sur des socles qu'elle découpe elle-même à la tronçonneuse. Là, le contraste est assez génial. Et je trouve ça remarquable parce que on regarde plus tout cela de la même façon. Il y a une vraie homogénéité, en même temps une vraie sensibilité. Elle nous donne envie d'aimer les ingénieurs qui dessinent les pièces des avions qui ne se cassent pas la figure.
Corinne Rondeau, dernier mot sur Printemps de Septembre.
De toute façon, bon, moi je...
Belle édition.
Non, c'est une belle édition, mais je pense qu'elle n'est pas faite pour les gens qui attendent de l'art de s'amuser. Je pense qu'elle est faite pour nous faire... Il y a beaucoup d'autres artistes, on ne les a pas cités, notamment à l'espace Écureuil, où on est dans une procédure foucauldienne. C'est-à-dire on va retrouver des archives disparues ou des moments forts de la création sur le situationnisme en Afrique, par exemple.
L'influence des situationnistes sur la révolution au Cameroun, oh, c'est génial.
Donc, il y a ce travail qui est du musée jusqu'aux artistes les plus jeunes, on va dire, ce rapport à faire réémerger des strates. Donc évidemment, on n'est pas dans le jeu. Et moi, je dois dire que... Alors, Harry s'est arrêté sur ce qui envoie le bois, on va dire. Et justement, c'est parce qu'il y a des choses déceptives que ça marche à ce point-là. Et ce qui est certain, c'est que cette œuvre qui s'appelle Le Jardin des Chuchotements, et non pas des Murmures, même si ça peut être des Murmures, dans le réfectoire des Jacobins, c'est un peu Oh les beaux jours de Beckett. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne sait pas où on est, ce qui s'y joue, et on est toujours en deçà. Et on est toujours dans la rencontre de ce qui peut avoir lieu, comme par exemple à l'Hôtel Dieu, ou une décomposition, l'art en morceaux, on va dire. C'est une rencontre d'un petit tableau d'une petite fille qui était la fille d'un médecin qui a fait une opération à cœur ouvert. Il a amené sa petite fille et elle est devenue elle-même médecin. Et donc, c'est Christian Bernard aussi qui fait se rencontrer des histoires, des événements de la vie qui deviennent des formes de rencontres artistiques aussi.
Le printemps de septembre dans la pluralité des mondes, dans différents lieux de Toulouse, on l'aura bien compris, c'est jusqu'au 23 octobre. Concluons avec le jeu de la dispute. D'abord, un retour sur le jeu d'hier soir. Lucille Comeau.
Alors, la question était, Oscar Wilde a directement inspiré de son vivant le personnage d'un opéra. Comment s'appelle cette œuvre? Et la réponse est Patience de Gilbert et Sullivan.
Ce soir, des places de cinéma à gagner pour aller voir Fukuhama et Par de la Lampedusa de Gianfranco Rosi qui est sorti aujourd'hui. La question?
Alors, un de ses précédents films à Gianfranco Rosi s'appelle Il Sicario, chambre 164. Pourquoi chambre 164?
Votre réponse, c'est que vos coordonnées postales à envoyer à Auditeur FC @radiofrance.com. Et ainsi s'achève la dispute de ce soir. Merci à vous, Lucille Comeau, Corinne Rondeau, Harry Bellet. Merci à l'équipe de la dispute, Daniel Finot, Virginie Ledio, Josué Morel et Boris Pino. Merci à Jean-Louis Delon qui a assuré la prise de son et les bips. Réalisation signée Daniel Finot. Demain, dispute musicale avec Sophie Rosemont et Christophe Comte. À notre affiche à présent de Vincent Delerme, 22 Million de Bon Iver et Choose Your Own Adventure des Vanishing Twins. Ce sera demain à 21h. Avant cela, le programme se poursuit sur France Culture. Dans quelques instants, le journal de la rédaction.